Il est 6h, ici à Paris, 4h en temps universel, et vous êtes bien sur la Radio du Monde. Radio France Internationale et le journal de Gaëtan Plenet. Bonjour.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Condamné, mais candidate.
Une journée riche en annonces hier en France. D'abord celle de la justice. Marine Le Pen reconnue coupable en appel de détournement de fonds européens, comme en première instance. Sauf que sa peine d'inéligibilité a été allégée, rendant possible sa candidature à la présidentielle de l'an prochain, ce qu'elle a officialisé dans la soirée. On y revient dès le début de cette édition, mais aussi dans une édition spéciale, juste après le journal de 7h, heure de Paris. L'actualité, c'est aussi ces nouvelles frappes au Moyen-Orient, des frappes iraniennes au Koweït et à Bahreïn, après des attaques américaines dans la République islamique les plus intenses de ces derniers jours, et ce malgré le protocole d'accord signé entre les deux pays. Dans ce journal, on va revenir aussi sur la tournée africaine du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, Addis Abeba hier, Niamey aujourd'hui. Et puis l'Argentine a eu très chaud hier en huitième de finale de la Coupe du Monde masculine de football. Longtemps menée au score par les Égyptiens, les tenants du titre ont finalement renversé le match. Pour atteindre les quarts, ce sera contre la Suisse, tombeuse elle de la Colombie. Pour la France, la renaissance, c'est le slogan de campagne de Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National pour la présidentielle de l'an prochain en France. Elle l'a elle-même dévoilé dans la soirée, juste après s'être lancée dans la course à l'Élysée lors d'une interview sur le plateau de nos confrères de TF1. Une candidature qui n'était pas certaine, la justice aurait pu l'en empêcher, mais non, car hier, la Cour d'appel de Paris a rendu son jugement dans l'affaire au Parlement européen des assistants parlementaires du Front National, l'ancêtre du RN. Et si Marine Le Pen, comme d'autres cadres de son parti, a été reconnue coupable de détournement de fonds, condamnée à 3 ans d'emprisonnement, dont un sous bracelet électronique et à 100 000 euros d'amende, eh bien sa peine d'inéligibilité, prononcée en première instance, a elle été allégée. 45 mois, dont 15 fermes, 15 mois déjà purgés, et Marine Le Pen a vite fait le calcul, elle est à nouveau éligible et elle compte bien en profiter. Retour sur sa prise de parole sur TF1 avec Victorien Villaume.
Une parole qui était très attendue depuis le petit séisme de la mi-journée lorsqu'on a appris que la justice permettait finalement à Marine Le Pen de se présenter, mais allait-elle le vouloir alors qu'elle a été condamnée en appel à porter un bracelet électronique et qu'elle avait annoncé ces derniers mois qu'elle ne pourrait pas faire campagne dans de telles conditions? Marine Le Pen, ce mardi soir, a trouvé son argument.
Comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation, ce qui n'était pas obligatoirement le cas des autres hypothèses, et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique.
La chef de file du RN affirme donc que malgré sa condamnation en appel, elle est en capacité de se présenter pour la 4e fois à l'élection présidentielle.
Je n'ai pas hésité à partir du moment où ma peine d'inéligibilité est purgée, alors je veux aller au bout, comme tout justiciable d'ailleurs, a le droit de le faire pour pouvoir défendre précisément mon innocence dans ce dossier.
Marine Le Pen balaye aussi d'un revers de main le fait que cette condamnation en appel puisse perturber la campagne, estimant que les Français auront le dernier mot.
Et c'est aussi l'avis de son allié Éric Ciotti qui voit dans cette candidature une bonne nouvelle pour la démocratie française. Il est sain que ce soit aux Français de trancher et non aux juges, a réagi pour sa part une autre voix de l'extrême droite, Éric Zemmour. Le secrétaire général du parti Les Républicains, Othmane Nasrou, accuse lui Marine Le Pen de prendre la démocratie en otage et de fragiliser les institutions. À gauche, les limites de la décence et du bon sens sont dépassées, estime quant à lui le député François Ruffin. Cette condamnation doublée d'une candidature à la présidentielle, on va en reparler longuement ce matin sur RFI, dans le journal de 7h, heure de Paris, avec notre correspondant à Bruxelles pour voir un petit peu les réactions européennes. Quelques minutes plus tard, édition spéciale avec Andréane Mellard et le professeur associé à Sorbonne Université, Arnaud Benedetti. Le député et porte-parole du Rassemblement National, Julien Oudoul, sera lui notre grand invité ce matin. Rendez-vous à 8h20. Le Koweït annonce que ses défenses aériennes sont en train de repousser des attaques de missiles et de drones. L'Iran annonce frapper là-bas des bases américaines. Même chose à Bahreïn. Le tout après d'autres frappes américaines. Cette fois, dans la soirée, elles ont été assez intenses en Iran. Plus de 80 cibles visées selon Washington. Le tout alors qu'un accord de cessation des hostilités avec Téhéran est toujours censé être en vigueur et qu'officiellement les discussions techniques se poursuivent. Correspondance à Washington de Vincent Souriau.
L'intensité des frappes, d'après le commandement américain, 5 à 6 fois plus violente que les précédents bombardements qui ont visé l'Iran depuis la signature du protocole d'accord entre les deux pays. Les États-Unis ont tiré sur des systèmes de défense anti-aériens, des postes de contrôle, des batteries antimissiles et détruit plus d'une soixantaine de bateaux légers le long des côtes iraniennes, autour des localités de Bandar Abbas, de Sirik et sur l'île de Keshm qui borde le détroit d'Ormuz. Une partie de ces objectifs avait déjà été pris pour cible pendant la guerre, mais une source américaine indique au Wall Street Journal que l'Iran a depuis été capable de reconstituer la majorité de l'arsenal militaire qui se trouvait sur place. Il s'agit d'une riposte aux attaques iraniennes qui ont visé ces derniers jours 3 navires de commerce immatriculés dans le Golfe. Les États-Unis maintiennent que le cessez-le-feu tient toujours, mais ces opérations militaires sont de loin les plus importantes depuis que Donald Trump s'est engagé à de véritables négociations avec le régime iranien. Vincent Souriau, Washington RFI.
Donald Trump qui est à Ankara au sommet de l'OTAN qui se poursuit aujourd'hui dans la capitale turque, et à son arrivée hier, le président américain a eu droit à un accueil très chaleureux dès sa sortie d'avion où l'attendait son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. On verra si c'est aussi chaleureux tout à l'heure lors de son entretien avec l'Ukrainien Volodymyr Zelensky, lui aussi présent au sommet et qui cherchait à obtenir de ses alliés davantage de moyens de défense anti-aérienne pour faire face aux attaques russes. Il y en a eu de nouvelles cette nuit avec des explosions entendues à Kiev mais aussi à Kharkiv. Les autorités font état de blessés. Sergueï Lavrov attendu à Niamey. Aujourd'hui, deuxième étape de la tournée africaine du chef de la diplomatie russe, entamée hier à Addis Abeba en Éthiopie, où il s'est notamment entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf. L'UA, dont les relations sont tendues avec les pays de l'AES, les trois régimes militaires putschistes du Mali, du Niger et du Burkina Faso, des partenaires privilégiés de Moscou, notamment sur le plan sécuritaire avec la présence des militaires russes de l'Africa Corps. Tout à l'heure, à Niamey, Sergueï Lavrov participera d'ailleurs à la deuxième session des consultations des ministres des Affaires étrangères de l'AES. Mais que cherche-t-il concrètement? On a posé la question à Tatiana Smirnova, elle est chercheuse associée à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, et spécialiste des relations entre la Russie et l'Afrique.
Ce que cherche Lavrov, c'est désenclaver diplomatiquement les pays de l'AES qui se trouvent en isolement relatif et en rupture, disons, avec les pays de la CEDEAO. Ensuite, Moscou cherche en fait aussi à montrer que c'est pas que le partenaire, disons, militaire ou sécuritaire dans les pays sahéliens, mais aussi elle cherche à peser de manière structurelle sur l'architecture politique africaine. Lavrov cherche à jouer une tentative de faire une sorte de pont entre deux niveaux de légitimité, donc d'un côté l'AES qui s'est construite voilà en rupture avec CEDEAO et de l'autre côté avec l'Union africaine qui reste le cadre continental incontournable. Je pense qu'il y a de l'intérêt quelque part de ces trois pays de sortir de cet isolement-là. Ce dialogue pourrait être tactique, mais stratégique et profond. Pour cela, il faut des changements politiques importants et je ne pense pas que l'AES est prêt à les assumer.
Des propos recueillis par David Bachet. Au Sénégal, c'est un nouveau rebondissement dans le bras de fer qui oppose l'exécutif et la majorité parlementaire à propos de la réforme de la Constitution. Le président Bassirou Diomaye Faye a choisi de saisir le Conseil constitutionnel pour contester l'adoption de cette réforme il y a quelques jours. Une réforme, rappelons-le, qui restreint les pouvoirs du chef de l'État mais qui renforce ceux de l'Assemblée dirigée désormais par l'ex-premier ministre Ousmane Sonko. Lui démissionne du Parlement britannique et s'y présente pour être réélu. La tactique de Nigel Farage, le patron du parti d'extrême droite Reform UK, il a annoncé quitter son poste de député pour provoquer une législative partielle dans l'espoir de se faire réélire dans sa circonscription du sud-est anglais, car pour lui, c'est un moyen de laisser les électeurs trancher alors qu'il est mis en cause dans des affaires de dons non déclarés. Les précisions sur ce pari politique depuis Londres avec notre correspondante Emeline Va.
Nigel Farage est un homme en colère. Après le système et après la presse qu'il accuse d'être la marionnette politique d'un aristocrate condamné pour escroquerie, le député d'extrême droite, en popularité croissante dans les sondages, est déjà visé par une enquête parlementaire pour entorse aux règles de transparence.
I have done nothing.
Je n'ai rien fait de mal, je n'ai pas enfreint la loi, je n'ai pas détourné d'argent public. Les règles sont instrumentalisées à des fins politiques.
political tool.
Et afin de le discréditer, selon lui. Influenceur sur les réseaux sociaux, présentateur d'une émission de télévision, le député de Clacton refuse d'être jugé par les médias.
Today, I will resign.
Je vais démissionner de mon siège de député de Clacton, déclenchant ainsi une législative partielle. J'ai décidé que c'était aux habitants de Clacton de juger mes actions. C'est l'occasion de faire un bras d'honneur au système et de leur dire franchement d'aller se faire voir. Je me présenterai à cette législative partielle pour continuer la révolution politique que nous avons enclenchée.
Le coût moyen d'une élection partielle pour le contribuable dépasse les 250 000 euros. Emeline Van Londres, RFI.
Les émissions de gaz à effet de serre ont nettement baissé en France au premier trimestre. C'est ce que nous apprend ce matin le CITEPA, l'organisme chargé d'établir le bilan officiel des émissions françaises. Elles ont donc baissé. Elles se grâce au recul des consommations de chauffage l'hiver dernier. C'est une bonne nouvelle, dit la ministre française de la transition écologique. Mais il ne faut pas, ajoute-t-elle, relâcher nos efforts. La Suisse en quart de finale d'un mondial masculin de football, ce n'était pas arrivé depuis 1954. Mais la Nati, c'est le surnom de l'équipe, s'est qualifiée hier soir en battant la Colombie au tir au but. Prochain adversaire des Suisses, l'Argentine, qui s'est fait très très peur contre l'Égypte. Les tenants du titre étaient même menés 2-0 jusqu'à la 78e minute. Puis tout s'est inversé, 3 buts inscrits et les Argentins l'ont emporté 3-2 dans les toutes dernières minutes d'un match assez irrespirable pour les supporters. Reportage à Buenos Aires de Caroline Vic.
Troisième but, écrit de soulagement pour ces Argentins réunis dans un bar de Buenos Aires, Lautaro.
Je suis très euphorique, on ne pensait pas qu'ils allaient pouvoir gagner, mais l'équipe argentine a du cran et elle vient de le démontrer à l'Égypte. Je suis très content et ému de ce triomphe.
Et au milieu des Argentins qui dansent et libèrent le stress, Estanislao, lui, est encore assis, sous le choc et les larmes aux yeux.
On était morts, j'étais en plein désarroi. À un moment, je pensais qu'on était éliminés. Je ne réalise toujours pas. Déjà, pouvoir faire match nul, ça m'a paru fou. Mais alors, gagner sans prolongation, que l'Argentine joue son meilleur jeu au pire moment, je n'arrive pas à le croire.
Un match épique avec un Lionel Messi un peu éteint au début et un pénalty raté, mais une équipe qui n'a jamais cessé de lutter. Fernanda.
Je voulais m'en aller à un moment parce que j'étais très nerveuse. Mais il faut toujours y croire. Jusqu'au coup de sifflet final, le match n'est pas terminé. C'est ça qui est beau dans le mondial. Et même si Messi n'a pas beaucoup brillé, on a vu une équipe solide. Et c'est ça que je voulais voir.
Et après la souffrance, la fête, en attendant les quarts de finale pour l'Argentine, dimanche prochain contre la Suisse. Caroline Vic, Buenos Aires, RFI.
Et pas de match prévu ce mercredi. Repos pour tout le monde avant le début des quarts de finale demain. La France affrontera le Maroc. Vendredi, Espagne-Belgique. Puis le lendemain, Norvège-Angleterre. Et enfin donc, cette Argentine-Suisse dont on parlait. Pas de repos par contre sur le Tour de France. Pas encore. Cinquième étape aujourd'hui. Un petit peu moins de 160 km entre Lannemezan et Pau. Hier, c'est le Norvégien Torstensen qui s'est emparé du maillot jaune en ne prenant pourtant que la 8e place d'une épreuve remportée par le Danois Mats Pedersen. Il est 6h13 à Paris.
Gaëtan Plenet.
Le retour de l'actualité africaine dans 17 minutes. D'ici là, on est en Irak, où se délocalisent le temps d'une journée les obsèques du guide suprême iranien Ali Khamenei, avec des processions organisées dans des villes saintes chiites. On verra que c'est un message à la fois très symbolique et très politique aussi. Damaris Amao sera notre invitée culture. Elle est la commissaire d'une exposition sur le Ghana. C'est en ce moment aux rencontres de la photographie d'Arles, dans le sud de la France. Et puis on parlera du diabète et de l'importance d'une prise en charge précoce. Ce sera dans notre conseil santé du jour. Mais d'abord, reportage en Cisjordanie occupée, près de la Crimson Thread, ou fil pourpre en français, une nouvelle barrière israélienne en cours de construction dans ce territoire. 22 km de route militaire bordée d'une tranchée de 4 mètres de profondeur et d'un haut remblai de terre, ça veut dire à nouveau des destructions et des centaines de familles d'agriculteurs palestiniens privées de leur outil de travail, voire de leur logement. Pour certaines familles, c'est déjà une réalité dans ce secteur considéré comme le grenier de la Cisjordanie. Alice Moreno s'y est rendue.
Des champs d'oliviers, des serres agricoles s'étirent jusqu'au fleuve Jourdain. Dans la vallée, des bulldozers israéliens retournent la terre fertile.
Ils construisent soi-disant une simple route, mais c'est faux. Ils veulent voler nos terres.
Taher est un berger de 35 ans. Il décrit les travaux en cours.
Sur place, il y a certes une route, mais tout le long, il y a une tranchée profonde de 4 mètres et un remblai haut de 2 mètres. Je ne veux plus y retourner au risque de me faire arrêter ou attaquer.
Ce projet, ce n'est rien d'autre qu'une nouvelle barrière de séparation, dénonce-t-il. Inquiet, il observe son troupeau de 90 moutons.
Avec les travaux, ils m'ont coupé l'eau. On doit aller chercher de l'eau à 2 km de nuit, comme des voleurs.
Dans le village voisin d'Atouf, un agriculteur...
Can I call you Rose? Cause you're sweet like a flower in bloom.
Can I call you Rose?
Can I call you Rose? Cause your fragrance takes over the room.
Can I call you
Darling? Can I call you Rose? Cause your thorns won't let love in too soon.
Can I call you Rose?
Can I call you Rose?
Can I call you Rose?
Cause your roots have the power to consume. Taking on love and you and roses, and the universe told me, put it in a love song.
j'ai l'intention de tenir l'antenne 24 heures sur 24 jusqu'à ma mort. Et puis même encore après, s'il le faut.
Mais tu crois pas que ça pourrait peut-être finir par être légèrement monotone comme expérience pour l'auditeur ?
Principe actif, 102.4 FM.
Et les missiles russes, l'invisible russe. Les buildings, les holdings, les gros titres. La guerre et ses motifs, les personnes émotives. Les hélicoptères noirs, les services secrets. Les renseignements, les services des teutrés. Les intérêts, les crédits, les George Orwell qui prédisent. Les philosophes qui méditent mal, leur équipe naze. Les lumières, les illuminati qui éliminatifs. Annihilent qui veulent ferme là. Les chemtrails, le chiffre 13. Et si tu parles un peu trop fort, les types te crèvent. Le chômage, l'économie, le MEDEF, le FMI. Les hommes efféminés, les lobbies féministes, les fausses incriminés. Dictature et fausse démocratie. Les métropoles et les fausses démographiques. La mode, la musique, le cinéma, la commission trilatérale. Bientôt l'addition qui la paiera. Les hautes et basses fréquences, 50 semaines de taf et 2 semaines de vacances. Et que se paye le Vatican, le luxe en